Bon, donc on a eu une bonne diversité de communication sur les aspects psychologiques des témoignages de Pan, y compris une perspective un peu critique. Eh bien, le débat est lancé. Donc on peut soit réagir de manière générale sur la question, soit interagir plus spécifiquement avec un des conférenciers. C'est selon.
For me, it is of great interest the history of a UFO. Just a minute. So it is of great history, deep history of UFO. More interest. I have not learned nothing. What was? No. That's UFO. So, I would like to ask, what was before internet, before journalist, some years ago, for example, in Mahabharata, they were described something, some instrument like UFO, and in some Russian chronic, we have a lot of information, but they call it Kave or Samaze, then in some legend where some spirit, then some balloon appear, then some aviation appear, and it was a lot of legend and different cases in chronics. But I have not learned nothing this now, because they think that everything started in 1947 after Arnold. It is just only name start, but before it was described a lot of meeting of people with some spirits, with some forest, and it was before Christ era. I don't know. I think people from history should start from that time. Who from historical people or psychological give me answer?
I'm sorry for the noise. I can do nothing about that. I don't know how it lasts. Who would like to reply?
I suppose it was kind of a question for me, so I will try to reply. For me, as a psychologist and someone working in human sciences, the UFO phenomena is the fact that people see things in the sky that they cannot recognize. What was before 47? But as a joke, I would say, of course, there was the fairy phenomena. There was something before, but the UFO phenomena as we know it today, there was a change. The 47 moment was a change in the way we interpret stuff. Before we saw fairies, now we saw aliens. So I think from a history point of view, you shouldn't make the mistake to project our worldview today to upon the worldview of previous people. I think it's very bad history or archaeology to read the Bible and to see some passages where you have the impression that I think it's Elijah who describes something coming from the sky, the chariots of the gods, and say, well, that's kind of a UFO. That's taking the wrong approach. I think good historian and won't do that. They will say you shouldn't project or worldview, current worldview, to what believed the old people in antiquity. So, of course, before, from the I'm interested in culture, in sociology, in psychology. Of course, before 1947, there were stuff in the sky that people couldn't recognize. Like we are talking about many of them, light bulbs and so on. So there was stuff before, but that was not the UFO phenomena as we know it today.
Malgré les marteaux piqueurs, on peut essayer de mener un débat.
Ouais. Moi, je voudrais juste faire trois commentaires par rapport à l'exposé de Pierre. D'abord, son titre, à propos des prétendus aspects psychologiques et sociologiques, ça sous-entend qu'il n'y en a pas du tout. Alors qu'il aurait dû dire à propos de prétendus, là, ça m'aurait semblé normal. Deuxième commentaire, quand il dit « Les témoins d'OVNI ne présentent aucune psychologie particulière », peut-être. Est-ce que tu as des références à ce niveau-là? Et troisième remarque, troisième question, quand tu termines par « Ceux qui ont besoin de psychologues ne sont pas les témoins », bon, il est évident que la plupart des témoins n'ont pas besoin de psychologues. Il est évident aussi, je crois, que quelques témoins ont besoin de psychologues, mais il n'y a pas que les ufologues, quelle que soit leur tendance, qui, en plus des témoins, pour avoir besoin de psychologues, c'est quelque chose de très général. Merci.
D'accord. Bon, par rapport au titre, j'ai expliqué après ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plus de psychologie pour les témoins d'OVNI que pour n'importe quel autre type d'observateur.
D'accord.
D'accord. Ensuite, sur la question des témoins qui pourraient être particuliers ou pas, c'est pas à moi. Je veux dire, le point sur lequel on doit partir, c'est qu'on n'a pas à charger plus les témoins d'OVNI que n'importe quel type d'observateur. C'est à celui qui pense que les témoins d'OVNI appartiennent à une catégorie particulière de le démontrer. Ça, c'est le vieil argument. Chaque fois qu'on a un débat, c'est le vieux débat sur la pensée magique. Les ethnologues, pendant des décennies, ont jugé 99% du reste de l'humanité comme étant bizarre et nous comme étant normaux. Mais on sait maintenant qu'il n'y a rien de particulièrement bizarre dans ce qu'on appelle la pensée magique. Donc on peut étendre l'argument. Est-ce qu'on a des études précises qui permettent de catégoriser la population des témoins d'OVNI comme étant particulier? Non, il y a eu quelques études, mais elles ont été contestées. On sait bien.
Au niveau des enlevés, en tout cas, il y a quelques études qui montrent que les enlevés ne relèvent pas de la pathologie. Ça, c'est bon, sauf cas particulier, c'est bien.
Oui, bien
mais
sûr.
Que globalement, c'est une population qui est un peu différente de la population normale.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils rapportent ou tu vois?
Ah, ben ça. Personne ne sait.
On a du mal à dire pourquoi.
Oui.
Parce que on a la population des abductés qui rapporte. Donc c'est, on va trouver les facteurs, mais on ne sait pas à quoi ils s'appliquent exactement. Et en plus, notre population, ce que nous a enlevé, pour un ethnologue, c'est un phénomène d'une banalité extraordinaire. Être enlevé par les esprits dans toutes les cultures humaines, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc c'est presque ceux qui n'ont pas été enlevés qui sont, au niveau de l'histoire culturelle, qui sont un peu bizarres, je dirais. Mais bon.
Ah bon, d'accord. Ok. Je suis bizarre.
Merci. Bon, je n'exprimerai pas les choses exactement de la même façon que Pierre Lagrange, mais sur le fond, je suis assez d'accord sur l'idée que. Les enquêtes sur les ovnis, il n'y a aucune raison de ne pas les aborder comme on aborderait n'importe quelle enquête, notamment les enquêtes judiciaires, puisque c'est à mon sens le domaine le plus proche. Et moi, pour avoir bossé pendant plus de 20 ans sur l'enquête judiciaire, je crois que les méthodes de recueil du témoignage qui sont appropriées pour les enquêtes judiciaires sont également appropriées pour les enquêtes à propos des pans. On pourrait peut-être mettre quelques toutes petites nuances sur la question, mais sur le fond, c'est la même chose. L'idée, c'est de récolter un matériel le plus exhaustif possible, le moins biaisé possible dans le processus de restitution du témoignage par le témoin. Alors là, par contre, j'ai un petit... Comment dire, une petite réserve par rapport à ce que Pierre Lagrange propose comme outil. qui est un peu l'idée d'OVNI robot, en quelque sorte. Et là, je pourrais faire une démonstration que, à mon avis, c'est on va pousser à des erreurs et à des faux souvenirs. Mais bon, ça c'est une question de détail. Sur le fond, je pense qu'effectivement c'est vrai qu'il faut aborder le témoignage à propos des ovnis exactement comme n'importe quel autre témoignage. Après, il y a une analyse psychologique qu'on peut proposer sur la base du recueil qui a été fait. Ici comme ailleurs, sur les ovnis, comme dans un cadre judiciaire, ça va concerner le contenu de la déclaration. On peut analyser ce contenu et en tirer un certain nombre d'appréciations intéressantes. On peut analyser les conditions du recueil, mais partons de l'idée que le recueil a été bien effectué. On peut analyser aussi, évidemment, la personnalité du témoin. Et il y a quelques éléments intéressants qu'on pourrait tirer pour une certaine marge. Ce n'est pas la majorité des cas. Romain, peut-être que vous voulez dire deux mots sur ces aspects-là, non ? Sur les aspects de personnalité qu'on peut retrouver, par exemple, à Bugarac.
As a experimental psychologist myself, I've been listening to these presentations this afternoon, and as much as I can understand, I want to share something I observe, and that is that we're hearing one side of a coin, and that coin has factual acceptability, and it's accurate, and it's about witness fallibility, but that coin has another side. And that is that some witnesses are very accurate, and I don't hear that. I'm working with pilots who are highly trained, good vision, well-motivated, experienced, so forth and so on, and a bias not to report because they'll lose their job if they do. And so we have there a witness group which is extremely the other side of that coin, and I guess I'm standing here in defense of them, that it's too simple to say that the majority of witnesses fall into these categories. It's just much too simple. And I think we need to keep that door open and do a lot more work on understanding what separates two sides of the coin. And that's my point.
Je peux ajouter quelque chose à propos de cette idée de portrait robot. En fait, l'idée, elle vient de Shepard, qui est un psychologue américain, qui avait écrit un chapitre dans le livre dirigé par Richard Haynes, justement, en 78, dans lequel il... lui, c'est un psychologue professionnel qui a travaillé justement sur cette question de souvenirs, de témoins. Et ce qu'il montrait, c'est que les témoins étaient meilleurs, non pas si on leur demandait de raconter ce qu'ils avaient vu, mais si on les mettait en mode plutôt reconnaissance, plutôt par rapport à des outils visuels. Et il avait commencé à élaborer un tel outil, simplement en 78, on n'avait absolument pas la technique qui permet de le faire de même façon au GEPAN. Il y avait un outil qu'on avait tenté d'élaborer qui s'appelle le SIMOVNI, mais à l'époque, ça posait des problèmes techniques de focal qui étaient trop grands, et donc ça n'a pas pu aller très loin.
Mais ce n'est pas une affaire de technique, c'est une affaire de processus. C'est parfaitement exact que la reconnaissance permet des performances supérieures au rappel. Le problème, c'est que ce que vous proposez, ça se rapproche effectivement de la technique du portrait robot. Et la technique du portrait robot, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est une technique qui produit énormément d'erreurs.
Oui.
C'est un outil qui est pauvre. Avec un bon rappel, une bonne description sur une personne, on obtient des meilleures performances de détection, puisque ça sert à ça, un portrait robot, de meilleures performances de détection avec un bon rappel, une bonne description qu'avec un portrait robot. Après... Ce qu'on peut trouver dans la littérature scientifique qui se rapprocherait de ça, c'est les parades d'identification, ce que les policiers appellent les tapissages, où là, vous allez proposer différents exemplaires qui se différencient légèrement, et vous allez demander à un témoin de reconnaître, en quelque sorte,
la cible parmi ces différents exemplaires. Je doute fort qu'on puisse pousser l'analogie pour les ovnis, parce que à part créer des faux souvenirs, je vois pas ce à quoi on peut aboutir avec ça.
Oui, bonjour. Je suis Jérôme Beau, j'ai travaillé avec Pierre sur ce projet. L'idée, c'est pas forcément d'amener le témoin à recréer son observation, mais c'est aussi, et peut-être surtout, en fait, de simuler des hypothèses d'explication. Que l'enquêteur donc lui recueille le témoignage, qui simule une hypothèse d'explication visuellement, qui la montre au témoin et qui demande au témoin est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vu. Donc par exemple, l'enquêteur va faire l'hypothèse d'un avion qui passe à travers un brouillard, derrière un nuage, dans des tas de conditions, de manière la plus réaliste possible, grâce à cet outil qui se veut permettre de faire un rendu le plus réaliste possible. Et il va demander au témoin est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vu. Si le témoin dit oui, pour la première fois, il y a un accord possible entre l'enquêteur et le témoin, et on peut ne pas exclure cette hypothèse d'explication. Et on peut essayer de creuser un peu plus avant.
C'est exactement le principe des portraits robots. Et les portraits robots, je répète, c'est pas performant. Ce qui est intéressant, les gens ont quelque chose en tête, une image, une représentation visuelle. Il faut essayer d'extraire cette représentation visuelle. On n'est pas capable de planter un électrode et de faire apparaître une image sur l'écran. Bon, alors comment s'y prendre? Moi, je crois que la manière la plus simple, la plus efficace, c'est de demander aux gens de traduire en mots leur image mentale, en essayant de les influencer le moins possible. Si jamais on arrive à produire des consignes qui vont les aider à faire ce travail de remémoration, de restitution, c'est pas exclu. Mais proposer de l'imagerie pour que les gens puissent indiquer que cette image mentale, elle correspond plus ou moins à l'image qu'on leur propose, vous allez modifier leur représentation en mémoire. Inévitablement. Avec...
Monsieur Pi, oui, j'aurais une question à poser. Enfin, j'aimerais avoir une piste auprès des intervenants cet après-midi au sein du CNEGU. Je fais partie du CNEGU. On a travaillé depuis longtemps sur des cas d'observation de la Lune en découvrant le cycle du Saros. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces observations-là, où on sait ce qui déclenche l'observation, c'est que effectivement le témoin décrit bien la Lune. Mais par contre, il ne reconnaît pas la Lune. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'un des intervenants a une piste justement pour savoir pourquoi l'objet est bien décrit, mais par contre, il n'est pas reconnu.
Il n'est pas identifié.
Voilà.
Pierre Lagrange a une piste.
C'est parce que souvent dans ces histoires de Saros, quand on voit les reconstitutions qui ont été faites, la plupart d'entre nous n'auraient pas forcément reconnu la Lune non plus, parce que ça se présente dans des conditions qui ne sont pas celles auxquelles nous habitue notre culture scientifique. La Lune, on sait tous ce que c'est, les satellites. Enfin, moi, je me suis amusé à faire le test des tas de fois, à faire dessiner tous ces objets à des tas de gens. Ils les dessinent. Ils les dessinent tous tels qu'ils les ont vus dans les livres. Mais les témoins ne les voient jamais tels qu'ils les voient dans les livres. Là, on a un vrai problème qui est lié à notre culture scientifique,
oui,
qui n'est absolument pas prévue par rapport à l'expérience spontanée d'un témoin qui va se trouver face à un truc dans le ciel. Donc ça, je pense que la solution, elle est vraiment banale de ce point de vue-là. Et c'est étonnant qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Parce que le Saros, le document est très clair. La plupart du temps, ces reconstitutions, les gens étaient dans circonstances où la Lune ne se présente pas telle qu'elle se présente le plus souvent dans un autre imaginaire, justement, pour le coup.
Sauf que le satellite, effectivement, on ne le voit pas à l'œil nu donc on se base sur une image artificielle, alors que la Lune, quand même, on est censé la voir relativement dans le ciel.
Oui, mais si on la voit dans des conditions nouvelles, ben on peut très bien ne pas la reconnaître. Pourquoi ? Oui, mais toi, tu as une culture sur tous ces sujets-là qui va bien au-delà de la culture de la plupart des gens. Non, mais nous tous, je veux dire, si on est là, c'est parce qu'on s'intéresse à certains sujets. Donc on a fait tous ces liens. Mais la plupart, la culture scientifique, tu prends toutes les. Moi, j'ai toute une collection d'ouvrages d'astronomie. J'en ai trouvé un qui présente les phénomènes astronomiques tels qu'on peut les observer. Comme un témoin d'OVNI les observerait. Là, tous les autres bouquins reconstruisent tous les phénomènes, quand on parle Vénus, la Lune, tout ça, c'est des objets théoriques. Ce n'est pas des objets tels qu'on peut les observer. Donc on a un vrai problème de enfin, c'est un problème, c'est pas un problème, mais ça devient un problème quand on a des témoins. Mais je pense qu'on ne peut pas écarter ça. Et pour le coup, c'est une hypothèse beaucoup plus simple pour rendre compte des problèmes qu'on rencontre, plutôt que d'aller construire des concepts extrêmement compliqués sur les croyances et autres. Qui me semble inutile pour le coup.
Petite anecdote pour appuyer un peu ce que tu dis, c'est une anecdote qu'on se passe en tant qu'astronome. L'histoire se passe pendant le jeu Qui veut gagner des millions, et la question c'est quel astre tourne autour de quel astre. Donc la question c'est la Lune tourne autour de quoi et c'est qu'est-ce qui tourne autour de la Terre. La Lune, le Soleil, Vénus et je sais pas, un truc comme ça. Et donc la personne qui est interrogée panique un peu et demande l'avis du public. Et à 50%, les gens disent la Lune et à 50%, les gens disent le Soleil. Et donc la conclusion de cette petite histoire qu'on se passe entre astronomes, c'est ben pétard, on a vraiment du boulot parce que les gens ne savent pas. Quoi.
Il faut rajouter quelques épicycles.
Alors, je vais quand même. Moi j'ai quand même une question, une énigme quand même sur le sujet. J'ai récemment lu un cas de méprise lune énorme. Le témoin décrit un objet en forme de croissant, mais il ne reconnaît pas la lune. Là, honnêtement, je ne comprends pas. Hein.
Je pense que moi aussi, la réponse de Pierre Lacroix, j'ai
appropriée.
Oui. Sur.
La personne.
Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a quelquefois, il n'y a pas de connexion. Alors c'est vrai, quand c'est derrière un nuage ou quand c'est pour des conditions météo un peu particulières, je comprends que les témoins puissent ne pas reconnaître la Lune. Mais. Qu'elle suit, oui.
Ça peut arriver aussi si tu connais la Lune très bien.
Oui, oui, oui. Après, oui, oui.
Sûr.
Oui.
À la disposition pour faire nos observations, c'est tout.
Voilà. Excusez-moi, sur un autre sujet, je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Abrassard sur l'éventuelle influence de la science-fiction sur les pans. Pour ma part, je suis focalisé sur l'imagerie sous-coupique dans la bande dessinée américaine, française, etc. Je dois avoir peut-être 15 000 scans maintenant, un cinquième de ma collection. J'arrive toujours pas à mettre ça en perspective, même quand des formes ont été largement diffusées, pour que ça se retrouve dans les pans. Donc je voudrais juste signaler ça. Il y a d'autres pistes. Maintenant, si quelqu'un veut bien compléter ce travail et la mettre en perspective, donc je vais rejoindre le point de vue de Pierre, y compris dans la science-fiction. Si même il y a des choses qui se ressemblent, entre un triangle 1976 dans une BD, effectivement, peut-être qu'un tiers ou la moitié des Belges l'ont vu, j'aurais qu'on me prouve comment, 14 ans après, quelqu'un le remettrait en perspective. Alors, je ne dis pas qu'il a tort, mais pour vraiment être spécialisé dans ce domaine-là, je peux vous dire qu'après 25 ans, je ne trouve toujours pas de piste. Il y a peut-être une autre piste quelque part d'influence de ces cultures populaires sur les récits et sur les pans. Mais ce n'est pas une évidence. Je suis désolé. Bon, là, ce n'était pas le propos aujourd'hui de ce séminaire, mais j'en ai la preuve.
Oui, je ne pense pas qu'il faille voir une corrélation comme ça directe et évidente. Hein. Je suis très loin de dire que cette couverture de Bob et Bobette a provoqué la vague belge. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quoi. Je pense que Pierre Lagrange avait aussi comme argument l'idée qu'il faudrait que les témoins d'OVNI soient des grands lecteurs de science-fiction eux-mêmes. Là non plus, je pense qu'en tant que sceptique, ce n'est pas le discours que je tiens du tout. Hein. C'est parce que c'est une imagerie qui est flottante dans la culture et qu'on absorbe à certains moments. Donc on est tous exposés à la culture science-fictionnesque à travers les films, les bandes dessinées, etc. Et on a tous ces images en tête, mais il n'y a pas de... Tu peux très difficilement... Pour moi, ça n'a rien d'étonnant qu'on ne puisse pas faire une corrélation, des connexions directes dans la plupart des cas. Mais il y a quand même les schémas d'OVNI qui sont présents dans nos têtes, générés par la ufologie, par la science-fiction, etc. Et puis voilà, il y a des cas, comme j'ai dit, le premier cas de Chupacabra. Il y a une observation du monstre du Loch Ness où on peut penser que c'est parce que le témoin avait vu le film King Kong 2-3 jours auparavant, où on peut établir une corrélation directe entre ce qui est observé et un produit de science-fiction. Mais c'est des cas qui sont extrêmement rares. Mais encore une fois, ils existent, hein, donc je pense que ça vaut la peine qu'on en discute aussi.
Moi, je ne vois pas ce que ça explique, franchement. Quand on fait ce genre de corrélation, il faut le faire sérieusement, parce qu'on peut toujours trouver des éléments dans la culture et s'en servir comme argument pour dire qu'il y a une influence. Mais c'est l'argument de l'influence qui est très faible, dans ce genre de problème.
Je voudrais juste donner un exemple. Il y a, dans la bande dessinée américaine, à partir de, je veux dire, pratiquement de 1948 jusqu'en 1965, il y a une forme d'OVNI dessinée par... peut-être une quarantaine de dessinateurs des comics américains, qui est très très précise, qui a été reprise partout avec très peu de différences. Et ben, je ne connais pas de cas américain dans les pannes qui aurait repris en fait cette imagerie. Donc je ne vois pas l'influence à ce moment-là d'une création pure intellectuelle d'un dessinateur ou d'un scénariste. Alors dans le cinéma, ça aussi, je peux en parler très très librement. Il y a très peu de choses précises. Et même si on prend que le domaine français, qui est encore plus facile, plus court, je l'ai pas trouvé cette corrélation. Mais bon, on n'a pas le temps ici pour découvrir, parce que moi, je suis parti depuis 78 après la lecture de ce qu'a fait. Ce qu'a fait Bertrand et certains qui ont travaillé sur ces domaines-là. Et 30 ans après, j'arrive toujours pas. Alors bon, peut-être que je suis tout seul et il faut m'aider, mais je la trouve pas.
Je voudrais dire quelque chose à ce propos, justement. Bon, il peut y avoir de l'influence, mais moi, je crois plutôt que ce sont des phénomènes plus mystérieux, plus difficiles à comprendre, de résonance. Je prends un exemple. Je suis en ce moment frappé par la coïncidence entre la montée du mythe de Fantomas en France et de Hitler en Allemagne. Ça m'étonnerait que ce soit Fantomas qui a influencé Hitler. Mais il se trouve qu'au moment où Hitler est en train de monter en Allemagne, avant même, se développe dans la littérature française, avant la guerre de 14, c'est-à-dire en pleine époque de prospérité, de richesse, de paix, etc., le mythe d'un être monstrueux qui veut détruire le monde, etc., etc. Et il se trouve qu'à un moment donné apparaît Hitler. Je ne crois pas que Fantomas ait influencé Hitler. Mais donc ce sont des phénomènes... Alors ça peut dans certains cas influencer... Ça peut dans certains cas influencer, mais les phénomènes de résonance sont plus mystérieux et plus intéressants à observer. Voilà ce que je voulais dire. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est des signaux qui correspondent à des états de la société qui n'ont pas de lien apparent entre eux. Oui. C'est très curieux, ces phénomènes de résonance.
Oui, je voulais juste faire deux petites remarques qui reprennent plusieurs points qui ont été abordés et qui me frappent beaucoup, moi, après deux jours. Le premier aspect, c'est vraiment l'hétérogénéité de la phénoménologie à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Richard Haynes, c'est pas du tout pareil quand c'est un pilote de ligne qui est très entraîné, qui décrit quelque chose, ou les phénomènes d'illusion qu'on peut étudier dans le laboratoire, par exemple. Et pour moi, il y a vraiment des phénoménologies différentes, variées, qui s'associent à une deuxième difficulté, c'est l'aspect plurifactoriel. C'est-à-dire, quand il y a une méprise de la Lune, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a des aspects physiques, des aspects psychologiques. Au niveau psychologique, il y a des aspects émotionnels. Et c'est ce qui rend sûrement un peu fascinant ce domaine de recherche, c'est qu'il y a comme ça énormément de facteurs dont il faut réussir à faire la part à chaque fois. Et ce qui rend très compliqué cette étude également. Mais le risque, à mon avis, c'est de voir à chaque fois le phénomène à partir de sa grille interprétative. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler en réseau avec les différentes approches en même temps.
Bon, dans l'étude que Romain Bouvet a présentée, je ne sais pas s'il l'a mentionné, mais dans l'étude d'archives, il s'agit exclusivement de cas qui ont été analysés et identifiés par le GEPAN, des cas qui sont catégorisés A. Et l'homogénéité des cas, puisqu'il n'y a que des lanternes thaïlandaises, fait que ça rend leur étude infiniment plus facile. Ça, c'est un premier point. Après, on pourrait raisonner avec une toute autre perspective, c'est réanalyser tous les cas D, tous les cas qui sont considérés comme a priori non explicables, avec une perspective un peu méthodologique sur le témoignage oculaire, voire une perspective analytique en psychologie, et je pense qu'on aurait bien des surprises. Alors, évidemment, on peut évoquer la grande complexité du monde. Mais la grande complexité, on peut l'évoquer surtout parce qu'on ne se donne pas la peine d'analyser le problème jusqu'au point de le rendre simple.
Alors, parce que moi, ce que je trouve dans beaucoup d'explications psychologiques, justement, je ne parle pas de choses qui ont été discutées ces jours derniers ici, peut-être plutôt ces dernières journées, et ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que si on parle justement du principe d'économie, les hypothèses psychologiques qui sont souvent faites sur les ovnis sont extrêmement compliquées. On suppose beaucoup de choses, la croyance, de l'influence chez le témoin, et des mécanismes qu'on connaît très mal, et beaucoup de ces explications, justement, quand on prend sur le rôle de la science-fiction, de la culture ou autre, et quand on va regarder dans le détail, c'est souvent beaucoup plus simple, et on n'a pas besoin de toutes ces explications psychologiques aussi compliquées pour rendre compte de la plupart des phénomènes. Donc, la question, c'est de quel côté se trouve le principe d'économie dans certains cas. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression que certaines hypothèses qui ont été formulées pendant des décennies sur la psychologie des témoins sont inutilement complexes.
C'est possible.
On a besoin souvent de beaucoup moins de choses pour rendre compte de certaines erreurs, et on n'a pas besoin de charger les explications autant, je pense. Mais bon, après, il faudrait prendre les cas par cas, voir un peu, mais il y a certainement des phénomènes. Bon, dans le cas des enlèvements, il y a des situations qui sont sans doute un peu plus complexes, mais qui ne relèvent pas sans doute des mêmes types de phénomènes de méprise auxquels on est habitué. Mais souvent, la plupart dans les témoignages. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'était vraiment cette histoire de 5 novembre, parce qu'il y avait une étude psychologique qui avait été faite par le GEPAN, par Manuel Jiménez, sur ces cas. Et ça avait alimenté tout son discours sur la façon dont les témoins élaboré à partir de choses simples et qu'on avait reconnues. Et le travail de Robert Alessandri montre que si on se replace, si vraiment on fait l'effort de se placer dans les conditions dans lesquelles se trouvaient les témoins, on rend compte de façon très simple d'apparente méprise qui aurait paru compliquée et requérir des mécanismes psychologiques complexes. Et on n'en a pas besoin, finalement. La plupart du temps, on n'en a pas besoin. Donc, c'est comme le problème des dessins. Souvent, cette tendance qu'ont les gens à soucoupiser leurs dessins, les dessins qu'ils font de ce qu'ils ont vu. La plupart du temps, les gens ne savent pas dessiner. Donc, ils vont reproduire des formes simples. Le Chizu avait fait une expérience lors d'un congrès ufologique en projetant une diapositive. Et on se rend compte que même ceux qui étaient sceptiques avaient tendance à retomber sur une forme soucoupique. Mais parce que quand on essaie de représenter certaines formes, on est un peu forcé par son incompétence en termes dans le maniement de certains outils, notamment le dessin. Il n'y a pas besoin forcément de facteurs psychologiques compliqués pour rendre compte de certains de ces problèmes. C'est ça.
Je suis d'accord avec ça.
Voilà. Mais je pense qu'on est effectivement d'accord sur ce que j'ai entendu. C'est, on va, je pense, en gros, dans le même sens. C'est juste, moi, je voudrais rappeler, souvent, il y a une asymétrie dans ces discours et qu'on retrouve dans toute une littérature et qui ne rend pas forcément service à la discussion sur ces sujets. Mais bon.
Je suis d'accord sur l'idée que ce serait une grosse erreur de considérer que les témoins d'OVNI ont un problème psychologique a priori. parce que l'immense majorité n'a pas de problème psychologique.
Je rebondis justement sur le côté hallucinatoire. Je crois que c'est Xavier qui vient citer quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître la Lune, ce qui, bon, je ne suis pas médecin, mais me semble rappeler une forme d'aphasie passagère, ou en tout cas de malaise. J'ai eu personnellement travaillé sur un cas pour Xavier où il y avait une vieille dame très âgée qui a passé, d'après ce qu'on a constaté astronomiquement, une heure et demie à regarder le soleil, pour nous le décrire ensuite par écrit. Mais c'est une extrême minorité. Et je crois que là, on est dans des cas de malaise. On parlait avant d'hallucinations. 10% des gens seraient concernés sans que ça génère de comportements pathologiques nécessitant un traitement médical lourd ou un internement. On peut penser que ces gens-là sont habitués à leurs hallucinations, exactement comme un diabétique qui est habitué à prendre son insuline ou un médicament quelconque. Donc pourquoi est-ce que ces gens-là iraient du jour au lendemain témoigner au GEPAN ou ailleurs d'avoir rencontré des extraterrestres ou vu des choses extravagantes? Une question que je pose complètement de façon ouverte.
Il y a des gens qui ont des hallucinations, ils savent qu'ils ont des hallucinations. Une étudiante comme ça, à chaque fois qu'elle a un examen, elle entend une petite voix qui lui dit « tu vas y arriver, ça va être super ». Bon, donc là, il n'y a pas de problème, elle est habituée, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens, ils n'en ont pas conscience du tout. C'est-à-dire qu'au niveau cognitif, ils ne savent pas que parfois, ils ont des hallucinations. Et donc, ils voient constamment des choses comme ça, qui s'interprètent comme étant véritables. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Bah parce qu'une fois, ça va. Bah, alors là, c'est là que ça rejoint la question du sens de l'expérience. Moi, j'ai trouvé la petite vidéo qu'on a vue avec la dame qui dit « Oh là là, c'est incroyable !» On voit bien comment ça s'inscrit dans une subjectivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne-là, elle ne vit pas cette expérience de nulle part, elle la vit, ça a un sens pour elle. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours essentiel de s'interroger concernant ce sens-là, parce que ce sens-là peut avoir un impact au niveau hallucinatoire. On le sait, ça, maintenant. C'est-à-dire que l'aspect émotionnel a un impact direct au niveau hallucinatoire. Et ça, faut le regarder. C'est au cas par cas qu'il faut regarder. Et c'est pour ça qu'il y a une sous-catégorie de la population qui peut avoir ce genre de choses. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques études qui ont été faites, hein, sur les personnes qui rapportent des ovnis. On sait qu'elles ont des tendances comme ça, ce qu'on appelle les fantasy prone personality.
Je pense qu'on a un cas qui est très très bien qui va contenter tout le monde ou faire un débat assez important, c'est la vague belge en 90, pour être très clair. Parce que dans ce cas-là, on a eu des observations de nuit, rapprochées, des fois à moins de 20 mètres de haut. On décrit des triangles, ça traverse un pays, une population avec en Belgique une culture particulière germanophone, si je me rappelle bien, etc. Et moi, à l'époque, j'avais été un peu freiné parce que, par un certain bon sens, il s'est trouvé que je m'intéressais au F-117 et tout le monde m'est tombé dessus à l'époque. Parce que, en fait, quelqu'un avait dit que la base aérienne des F-117 était en Angleterre, à Lankenheath, et que quand ils avaient à se poser en Europe de l'Ouest, ils arrivaient sur une base d'Allemagne de l'Ouest qui était très proche, en fait, de la frontière belge. Et en réalité, quand j'ai pris des cartes à cette époque-là, j'ai tracé tout simplement une droite de Lankenheath à cette base d'Allemagne et je suis passé exactement dans, à peu près, on va dire, allez, pour ceux qui se rappellent de ce qu'on a discuté, dans ce couloir d'observation. Et j'ai pas poussé plus loin parce que, de toute façon, ça tombe dans le domaine, je dirais, militaire un peu confidentiel. C'était peut-être certainement un petit peu gros. Je voulais juste valider quelque chose qui était que, comme il y avait un certain nombre de triangles, etc. Et l'exclusion, je dirais même de l'intérieur du milieu des ufologues de l'époque, c'est de dire, mais non, c'est pas possible, il y a eu ci, il y a eu ça, les lumières correspondent pas, la taille correspond pas, la lumière correspond pas, etc. Il restait plus que les témoignages, en fait, qui ont créé donc ces deux énormes bouquins, toutes ces enquêtes, etc. Et au fait, ça n'a pas été expurgé. Et puis, il y a eu le salon du Bourget, j'ai interrogé un des lieutenants américains qui a piloté un de ces F-117, puis très directement au milieu de la foule, en prenant une question, je dis, est-ce que vous avez volé au-dessus de la Belgique, vous êtes atterri de l'autre côté en Allemagne? Et évidemment qu'il a souri, il n'a pas répondu, mais il n'a pas dit non plus. Alors, je ne dis pas que c'était une des pistes, mais en tout cas, elle a été évacuée simplement comme ça, par le milieu et personne n'a travaillé ce sujet-là. Et évidemment, ou s'il y en a qui l'ont fait, je ne l'ai pas lu quelque part, ou alors toi tu l'as fait, très bien. Mais en tout cas, on voit que même l'observation de très près, avec plusieurs dizaines de témoins pour des observations très proches, etc., ne permettent pas la résolution, ou en tout cas un effet fédérateur entre les chercheurs des sciences exactes des sciences dures et social pour essayer d'avoir un faisceau pour reconstituer ce puzzle de cet instant. Voilà ce que je voulais dire simplement. Et qu'est-ce qu'on fait des observations? Parce qu'on n'a rien trouvé. Alors, comme ça.
Juste pour le cas avec Belge, par exemple, je pense que l'hypothèse des tendances hallucinatoires ne rend pas compte de la vague belge, par exemple. Quand le premier jour, il y a 175 observations, ce que vous disiez, hein, 175 observations, ce n'est pas possible. Moi, quand je parle de l'hypothèse hallucinatoire, je ne réduis pas l'ensemble des pans à ça. C'est très important. Je pense que ça colle très bien au pan A, B. Ce qui serait très intéressant, mais je ne sais pas si on a les moyens de faire ça, ce serait de faire passer des questionnaires psychologiques, de tendance à l'imaginaire, des choses comme ça, sur les pans A, B, C et D, et on verrait ce qu'il y a. À mon avis, ce qu'on verrait, c'est qu'il y aurait des très grosses tendances à l'imaginaire dans les A et B, et moins dans les D. Mais bon, il faudrait le tester pour voir si c'est cohérent.
On va peut-être clore le débat. La vague belge.
Non. J'ai passé mon temps. Bon. Une toute petite précision. Il y a eu effectivement quelques survols par des F-117 en Belgique. Je ne sais plus si c'est un ou deux. Mais ça se limite à ça. Et lorsque ça s'est produit, ils étaient escortés par des F-16 de la force aérienne belge. Pourquoi ? Parce que c'est prévu dans le cadre des manœuvres de l'OTAN. Donc ça, on le sait. Bon, c'est tout. C'est juste une précision. Alors, je voudrais simplement revenir sur une petite image, puisque les images ont une importance. Jean-Michel Abrassard montre une page de couverture d'une bande dessinée Bob et Bobette. Bon, 1976. Et on voit un boomerang. Je pense, nos amis américains peuvent le confirmer, des boomerangs, ça a été décrit depuis très longtemps dans la phénoménologie OVNI. On rapporte des boomerangs depuis des décennies. Bon, je ne pense pas que les témoins de la vague de la vallée de l'Hudson en 83-84 aient lu Bob et Bobette pour décrire des boomerangs. En revanche, des boomerangs dans la vague belge en 89, il y en a. Seulement, je crois qu'on les compte sur les doigts d'une main, peut-être entre 5 et 10, pas plus. Tandis que des triangles, on nous dit des grands triangles sombres, des engins triangulaires sombres, mais ce n'est pas ce qui est représenté là sur la couverture de Bob et Bobette. C'est simplement une précision. Et ça, il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. Ce n'est pas 4 ou 5 ou 6. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que l'illustration d'une bande dessinée telle qu'on nous la présente ici a pu influencer dans une certaine mesure. C'est une question que je pose simplement.
Bon, moi, j'aurais une remarque à faire, un peu un décalage par rapport aux dernières questions. C'est que la problématique du GEPAN, me semble-t-il, c'est de pouvoir dire s'il y a un cas est explicable ou non. Après, s'il n'est pas explicable, on rentre dans un autre problème. Est-il explicable ou pas? Donc, s'il est explicable, c'est-à-dire que c'est une méprise avec quelque chose. Il y a forcément un stimulus, à part quelques rares cas pathologiques, il y a un stimulus. Donc, la question est, pour le GEPAN, me semble-t-il, de dire c'est explicable ou c'est pas explicable. Autrement dit, c'est une méprise ou c'est pas une méprise. Alors, pour moi, la psychologie, elle a un rôle énorme, essentiel, pour expliquer comment se fait la méprise? Pourquoi il y a méprise? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça peut apporter au sens social? Mais ce n'est pas la psychologie, à mon avis, qui la plupart du temps permettra de dire si c'est une méprise ou pas. Pour moi, pour avoir travaillé beaucoup depuis longtemps sur les méprises, il y a deux facteurs qui permettent de savoir si c'est une méprise ou pas. Le premier facteur, c'est l'information. On a la bonne quantité d'informations et on a la bonne information. Autrement dit, on a fait une bonne enquête. Le point principal. Le deuxième point principal, dont on ne parle jamais, qui à mon avis est très important, c'est la démarche d'esprit pour identifier la méprise. Je prends un exemple, on a beaucoup parlé des méprises lunes, et nous on a beaucoup travaillé sur les méprises lunes. La grande majorité des ufologues ont vécu avec des cas qui sont des méprises lunes évidentes, très simples à mettre en évidence, ils ne les ont pas reconnus. En 30 ans, ils ne les ont pas reconnus. On est infesté de méprises lunes, personne n'en a vu des méprises lunes. Il a fallu le document Saros pour que quelqu'un qui identifie et qui a remarqué ces méprises lunes, c'est pas moi, on recommence à travailler sur ces méprises lunes, on s'aperçoit qu'il y en avait partout, et d'autres méprises du même type. En fait, c'est un mécanisme sur lequel j'essaierai de revenir avec d'autres personnes prochainement. C'est un mécanisme de pensée, c'est un mécanisme de réflexion de l'expert ou de l'enquêteur qui va identifier. C'est la façon de prendre le cas qui va permettre de voir que c'est une méprise. C'est d'abord les informations, et ensuite c'est la façon de les utiliser pour qu'il va permettre d'identifier la méprise. Après, la psychologie va nous apporter plein de choses, surtout pour expliquer pourquoi le témoin est arrivé à se méprendre. Ça, c'est de la psychologie, à 99%. Mais pourquoi il s'est trompé, comment c'est fait, et comment mettre en évidence qu'il s'est trompé, à mon avis, c'est que dans quelques cas, la psychologie qui va nous permettre de le dire. La plupart du temps, ce sera l'information et la façon de rechercher comment il s'est trompé. Et on verra qu'il faudra soit partir du résultat et non pas de la question.